ouvrier, la sainte sort les entrailles et t'en fait le regard creux. Toi qui sans repos, qui trêve, travaille pour le ventre des heureux.
Aujourd'hui, Jonathan Thomas va nous parler de La Voix des Nôtres, la maison de disques qui a produit les disques de la SFIO quand son chef, Léon Blum, était aussi celui du gouvernement de Front Populaire en 1936 et 1937. La Voix des Nôtres, c'est donc le nom de la maison des disques socialistes du Front Populaire, mais n'était-ce pas déjà le nom de la première série de disques socialistes des années 1930 ?
Oui, tout à fait. Ce nom, La Voix des Nôtres, est manifestement devenu emblématique de tous les disques socialistes, voire d'une certaine manière des disques politiques des années 30. Et ça a dû arriver très vite dans l'histoire de ces disques, puisque quand RSA fait faillite en juillet 1935, on ne choisit pas le nom d'une des deux autres séries RSA. On aurait pu choisir, par exemple, d'appeler ces disques Les Chants du Monde du Travail ou Hier et Demain, pourquoi pas. Donc pour continuer à vendre les disques socialistes, mais on choisit bien le nom de La Voix des Nôtres. Donc RSA, qui avait produit La Voix des Nôtres, a donc été remplacé en quelque sorte par sa création. Et ce nom est particulièrement bien adapté au contexte politique dans lequel on redonne de la visibilité aux disques socialistes, dont le catalogue avait été très peu renouvelé en 1933 et 1934, puisqu'en fait La Voix des Nôtres devient le nom générique des disques socialistes en pleine ascension vers le pouvoir du Front Populaire, et que ce nom est en mesure de représenter la communauté de la gauche, la communauté des gens de gauche face à celle des gens de droite qui lui font face, notamment au sein du Front National. La Voix des Nôtres peut donc incarner, elle peut rassembler symboliquement, non seulement la voix des socialistes, mais aussi celle des militants des autres partis et aussi celle du peuple français que représentent ces partis. Et cette capacité qu'a le nom de cette maison de disques à désigner une vaste communauté est également très appropriée au fait qu'après les élections législatives du printemps 1936, le chef du Parti socialiste est aussi celui du gouvernement français et que l'entreprise sert pour la première fois à une propagande par le disque massive en période d'exercice du pouvoir.
Et pourriez-vous nous décrire la production, la ligne éditoriale de La Voix des Nôtres quand le Parti socialiste est alors au pouvoir ?
En fait, a priori, pas de changement fondamental entre ce que produisait RSA et ça, c'est déjà manifeste dans le fait que La Voix des Nôtres commence par rééditer la majeure partie du catalogue d'RSA. En ne reprenant toutefois pas toujours le programme des publications originales, mais en recombinant souvent la face d'un disque avec la face d'un autre disque. Donc on reste dans la ligne de la propagande éducation typique du Parti socialiste, si ce n'est la nouveauté que cette fois ces disques qui engagent leurs auditoires à adopter certains comportements et certaines idées viennent soutenir des politiques en cours de mise en œuvre par un gouvernement en exercice. Donc c'est par exemple le cas de disques contre l'alcoolisme ou pour la protection de l'enfance. On va trouver aussi les disques d'oratrices comme Suzanne Lacor, André Marty Capgras, Germaine Picard-Mock, Marthe Louis-Lévy, qui sont publiés alors que pour la première fois dans l'histoire de la France, trois femmes entrent dans un gouvernement français. Et on voit donc là une coïncidence entre l'arrivée des femmes au sein d'un catalogue de disques politiques au cours des années 30 et leur entrée au gouvernement. Mais le disque accompagne aussi le pouvoir dans le cours de son exercice avec un album de plusieurs disques qui donne à entendre le bilan que tire Paul Fort du Front Populaire au pouvoir en février 1937. Et on trouve aussi des disques qui servent à marquer un événement inattendu et tragique de cette période d'exercice du pouvoir, comme le suicide de Roger Saint-Langros en 1936 suite à des calomnies venues de la presse d'extrême droite. Ces disques illustrent, soit dit en passant, l'usage des moyens de l'État à des fins de propagande partisane, puisque ces disques donc qui font entendre le discours que dit Léon Blum aux obsèques de son ministre Saint-Langros est enregistré avec le moyen du ministère des PTT. Ceci dit, ça n'est pas un cas unique au cours des années 30.
On sent donc que la propagande socialiste ne cherche pas vraiment à amplifier l'effervescence que suscite l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, mais plutôt à le protéger en quelque sorte, à agir comme un moyen d'adhésion tranquille plutôt que d'exaltation ou d'agitation.
Oui, la politique éditoriale de La Voix des Nôtres signifie en effet une conception particulière du socialisme et elle est donc lourde de sens sur le courant du Parti Socialiste qui en a le contrôle. Moi, je parle depuis tout à l'heure de La Voix des Nôtres comme de l'entreprise qui a produit les disques du Parti Socialiste, mais dans la SFIO, on trouve des courants adversaires et qui sont plus ou moins à gauche. En l'occurrence, La Voix des Nôtres ne représente pas le courant du parti qui soit le plus à gauche. Ce courant est notamment représenté par Marceau Pivert et Jean Ziromski. Et il porte une rénovation profonde de la propagande socialiste en tant que propagande antifasciste. Donc c'est un épisode important de l'histoire de la propagande du parti qui s'engage dans le sillage des émeutes du 6 février 1934 que la gauche avait reçu comme une tentative de coup d'État fasciste et qui avait provoqué d'ailleurs l'union des forces de gauche en un front populaire. Donc dans la gauche du Parti Socialiste, à la suite de ces émeutes, on se dit que la propagande de la SFIO est en fait inefficace face à la propagande fasciste qui, elle, est basée sur l'émotion, tandis que la propagande socialiste est basée sur l'esprit critique, la compréhension, et qu'elle est donc trop cérébrale, qu'elle est trop rationnelle, et que donc elle perdrait la bataille face à cette propagande d'émotion qu'est la propagande fasciste. L'arrivée en France du propagandiste russe Sergueï Tchakhotine, qui vient d'Allemagne, où il vient de forger des outils de propagande assez puissants contre la propagande du régime nazi. Donc on lui doit par exemple les trois flèches pointées vers le bas qui viennent barrer les croix gammées sur les murs des villes allemandes. Donc son arrivée permet de changer une partie de la propagande socialiste en une propagande antifasciste qui exploite l'émotion, qui est beaucoup plus spectaculaire, qui utilise des symboles de combat et qui va aboutir notamment à l'organisation de meetings avec une mise en scène, y compris sonore, assez élaborée. Or, on ne trouve absolument aucun chant antifasciste au catalogue d'Ersa entre 1934 et 1935, ni au catalogue de La Voix des Nôtres après cette date. Et d'ailleurs, à part une version d'Au-devant de la vie, qui est un des chants emblématiques du Front Populaire, un chant écrit par Dimitri Shostakovich pour le film soviétique Contre-plan, on ne trouve pas d'autres symboles chantés du Front Populaire. On ne trouve pas, par exemple, de chants à slogan tels qu'ils existent dans des catalogues de firmes généralistes. En revanche, on va trouver au catalogue de La Voix des Nôtres des chansons qui vont servir la politique culturelle du Front Populaire, avec des chants folkloriques ou des coblas, qui sont des morceaux de musique catalane, enregistré pour soutenir les républicains espagnols alors en guerre contre Franco. On va trouver aussi beaucoup de chansons sociales écrites et composées par le poète Eugène Bizot et par Georges Isabelli, qui est également chanteur sous le nom de Georges Delmas et qui est en partie responsable de La Voix des Nôtres. On va enfin trouver des enregistrements du groupe théâtral Mai 36.
Et diriez-vous que cette propagande d'un parti au pouvoir par le disque, inédite en France à un tel niveau d'intensité, a, de manière générale, changé la façon de faire la propagande par le disque?
Alors, probablement pas. En revanche, elle est bien symptomatique de ce que devient progressivement la propagande par le disque pendant les années 30. Donc le discours tient une place de moins en moins grande et pour La Voix des Nôtres, il semble plutôt relever d'une fonction mémorielle. La musique, en revanche, est beaucoup plus présente et il me semble qu'elle relève d'une propagande plus subtile que la propagande d'agitation, une propagande qui se base sur la répétition, éventuellement quotidienne, d'affects qui pourront mieux disposer un auditoire à l'adhésion ou à l'action pour un parti politique. Tout ceci se passe d'ailleurs comme si la propagande par le disque avait perdu de sa puissance de fascination et qu'elle était moins perçue comme une pratique efficace à mesure que le temps passe, que la radio prend de l'importance, qu'elle se répand dans les foyers et que le disque devient un objet banal. Par exemple, le catalogue de La Voix des Nôtres ne propose aucune série, alors qu'on se souvient que le catalogue ERSA était finement structuré en 4 séries, elles-mêmes souvent subdivisées en sous-séries ou en sous-sous-séries, ce qui permettait de cartographier avec une grande précision les thématiques abordées par le catalogue et donc aussi de cartographier ses usages possibles. Par ailleurs, le temps passant, les premiers orateurs enregistrés par ERSA et qui sont repris donc par La Voix des Nôtres meurent. et le catalogue de La Voix des Nôtres devient une sorte de mémorial sonore des grandes voix socialistes. Ce faisant, le rapport au temps du disque change lui aussi, et les pratiques du disque politique qui viendront après-guerre montreront que le disque sera beaucoup plus utilisé comme un médium de la mémoire, notamment par la SERP, donc cette entreprise fondée par Jean-Marie Le Pen en 1963 et qui éditera beaucoup de disques d'histoire à usage politique. Et donc le disque apparaîtra après-guerre comme un moyen de travailler des mémoires politiques par le son, autant par son effet de réel que par ses affects.
Mais le Maroc, c'est le passé. La guerre est là. Chaque peuple paraît dans les rues de l'Europe, sa petite torche à la main. Et maintenant, voici l'incendie.
Jaurès, vous désespérez ?
Non, non. Oh, évidemment, ce qui se passe n'est pas pour dilater le cœur. La guerre, je ne dis pas qu'on l'évitera cette fois encore. Je dis que pour l'éviter, je ferai tout. Tout.
La base de données PS2X est soutenue par le DIMPAMIR et la région Île-de-France. Elle est réalisée au Centre de recherche sur les arts et le langage, un laboratoire du CNRS et de l'EHESS, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.